Bienvenue à Sur la ligne, cette émission tout tennis. Cette semaine, la séquence de victoires de Swiatek se poursuit alors que celle de Nadal est finalement terminée. On revient évidemment sur ce qui s'est passé à Indian Wells, qui a eu des changements de règlement en Grand Chelem pour ou contre le super bris d'égalité. Et on commence déjà à se tourner vers le tournoi de Miami. En l'absence de Nicolas Richard, Isa Juno, bonjour. Hugues Léger, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
Ok, oui.
C'est parti!
Salut, salut les gars, très content de vous retrouver. Merci à Isa Juno qui vient frapper en relève de Nicolas Richard. Aujourd'hui, on enregistre l'épisode un peu plus tôt que d'habitude. Et de toute façon, je ne sais pas si Nico aurait été là parce que c'est journée de transaction dans la Ligue nationale de hockey. Alors évidemment, avec son nouveau poste à la presse, vu que Nicolas Richard est rendu un big shot, devra prendre une pause et remplacer brillamment par Isa. Comment ça va, Isa?
Ça va bien, vous?
Ça va, merci, merci infiniment. Je t'ai écrit hier à quasiment à minuit pour savoir si tu voulais venir faire le show avec nous. Tu n'as pas hésité une seconde en dépit du fait que on enregistre un peu plus tôt aujourd'hui, comme je disais, il est présentement 7h le matin, pas que ça importe pour les gens qui écoutent en podcast, mais en général,
Heure avancée.
À l'heure avancée, exact. Exact. D'habitude, on enregistre un peu plus tard fin d'avant-midi ou en général en début d'après-midi. Là. Alors, il est de bonne heure pour tout le monde. D'ailleurs, Hugues, tu n'es pas à l'hôtel Morville, mais tu t'y rendras aujourd'hui, là, évidemment, vu qu'on enregistrait un peu plus tôt, tu n'avais pas le temps de te déplacer. Comment te portes-tu?
Ça va bien. Ça ressemblait au début du printemps. Ce week-end, commençait à déblayer les trucs du jardin. Là. C'est encourageant un petit peu. Puis, changement dans la hiérarchie du top 3 mondial aussi, avec Indian Wells qui se termine et Zverev qui descend et Nadal qui reprend sa troisième place. Et deux du Big 3 qui sont dans le top 3. Je vous l'ai dit, 2021, c'était la fin du top 3 du Big 3. 2022, c'est le retour du Big 3. Donc, voilà.
Ben en tout cas, tu t'étais pas trompé en 2021, puis visiblement, tu te tromperas pas en 2022 parce qu'on a déjà une bonne partie de l'année de fête. Et puis, écoute, Nadal n'a pas tant de points que ça à défendre d'ici la fin de l'année. Bon, évidemment, la séquence sur terre battue, mais par après, c'est je veux dire, il peut légitimement aspirer encore à de grandes choses, Rafael Nadal. Et puis, Novak, on verra, lui, la saga se poursuit dans son cas. Très content de vous retrouver, messieurs. Rentrons dans le vif du sujet, puisqu'on y est, Rafael Nadal, je vais commencer avec les hommes. Souvent, je commence avec les femmes, mais on commence avec les hommes. Rafael Nadal, qui a vu sa séquence de victoire se terminer en finale à Indian Wells. Rendu là, messieurs, moi, je pensais qu'il allait gagner ce tournoi-là, surtout qu'en finale, c'était contre Taylor Fritz. Isad, ton analyse de cette finale-là, est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu t'attendais à voir Taylor Fritz battre Rafael Nadal en finale?
Non, j'ai été très surpris. Je pensais vraiment pas hier avant le match que Fritz avait assez d'armes pour battre Nadal en finale d'un Masters 1000. Taylor Fritz, un Américain qui est longuement attendu là, du niveau des États-Unis, un ancien numéro 1 junior. Il y avait beaucoup de promesses envers lui. Mais je suis très, très surpris, surtout avec la séquence 20 matchs de suite. Nadal semblait vraiment intouchable depuis le début de l'année. Il avait sorti un très, très, très gros match contre Alcaraz que je crois qu'il a gagné juste un petit peu par son expertise, puis par son nom, puis par son statut vis-à-vis à Carlos. Mais je pensais qu'il allait aller jusqu'au bout, moi aussi, en effet.
Oui, exact. Et comme tu dis, il avait toutes les raisons au monde d'être confiant. Il était revenu de l'arrière dans ce tournoi-là à quelques reprises. Puis contre Alcaraz, il a été excellent contre un Alcaraz qui était phénoménal depuis le début du tournoi, doit-on le mentionner. Hugues, ton analyse rapide de cette finale-là, ça ressemble à quoi?
Ouais, je pense qu'il faut commencer. Premièrement, Fritz, premier Américain depuis 2001 à gagner Indian Wells. Le dernier gagnant était André Agassi. Je vous le donne dans le mille. C'est intéressant que Fritz gagne. Je pensais pas moi non plus qu'il gagnerait la finale, mais j'essaie de mettre ça en perspective un peu. Pour une nouvelle génération, de joueurs américains qui commencent à bien s'établir. On en parlait depuis qu'on fait le podcast, que les Américains sont plus où ils étaient historiquement. Mais là, avec les Opelka, Tiafoe, Sébastien Korda, Fritz, évidemment, il semble avoir une nouvelle génération là, qui est en train de prendre sa place du côté américain. Et je suis assez content pour le tennis américain en général que ça se passe en ce moment et que Fritz ait gagné le match. Pour revenir sur Nadal, écoute, nous en a mis plein la vue encore dans les derniers 15 jours ou environ. Il ne cesse de m'étonner. J'en parle depuis le début de la saison. Là, on dirait que je me répète un petit peu, mais c'est lui qui me force à me répéter parce que c'est exceptionnel ce qu'il fait. Le deuxième set contre Alcaraz dans le vent, si vous avez vu comment ils se sont débrouillés puis comment il s'en est sorti. Ce qui m'impressionne avec Nadal, c'est qu'il trouve des moyens de gagner qui sont pas ses moyens historiques. Il fait des drop shots, il fait des slices, il monte au filet de façon un peu kamikaze même des fois, mais avec un très haut taux de réussite quand même. C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Je pense qu'il était un peu amoindri en finale pour ceux qui l'ont regardé. Il semblait embêté par une blessure au pectoral gauche. Espérons que c'est pas d'autre chose. Là, il était pas très clair au niveau du diagnostic encore hier après le match. Mais chapeau à Nadal pour cette performance encore cette semaine.
Non, t'as raison. Moi, je pense que son pied l'embête encore. Là. Ça se pourrait aussi très bien que ce soit ça. Et je suis d'accord avec toi, il l'a pas dit clairement. Toi, as-tu remarqué quelque chose? Isad, as-tu remarqué quelque chose?
Ouais, ben je disais que juste un petit point. Après une longue séquence comme ça, puis un tournoi aussi long comme Indian Wells, Fritz aussi était vraiment il semblait avoir des douleurs qui se disaient au pied et à la cheville, ce qui est vraiment normal. Là. Indian Wells, c'est des gros tournois, c'est des tableaux qui sont de 128. Oui, OK, les Seeds ont un bail, là, c'est 6 matchs pour gagner le tournoi, mais c'est sûr qu'au fond d'un tournoi aussi long comme ça, là, tout le monde est vraiment douloureux, tout le monde est affaibli. Puis, bon, Nadal, je pense qu'il a peut-être poussé un petit peu plus, mais il faut pas diminuer la victoire de Fritz et comment il est allé chercher ça malgré les blessures de chaque côté. Je pense que c'était phénoménal de Taylor Fritz.
Ben, t'as raison de le dire. Quand on regarde son parcours, je veux dire, il bat Nadal et Rublev, qui étaient les deux meilleurs joueurs depuis le début de la saison. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Pour aller remporter un titre de Masters 1000, c'est une performance qui est phénoménale. Puis je trouve ça intéressant, Hugues, ce que t'apportes aussi, de dire, bon, mais la génération américaine de joueurs qui était, on l'a dit souvent, puis on en a parlé avec Ben Rutherberg, qui était devenu comme une espèce de pays de deuxième tiers. Là, on dit ça comme si nous, on se pavanait les Canadiens avec notre armée de joueurs de tennis. C'est pas ça que je veux dire, mais c'était quand même... C'était plus par rapport à toute l'historique tennistique des États-Unis. Bon, je pense que on s'entend qu'on n'est pas dans la période d'or, en tout cas du côté masculin, à tout le moins, là, assurément. Mm. Et là, de voir, ben, justement, là, c'est les Opelka, les Competition et les Isner qui sont encore dans le mix. Les Sébastien Korda qui s'en viennent également. Et là, de voir Taylor Fritz qui remporte le tournoi de Masters 1000. Isad, tu le sais, tu as joué la game. C'est prestigieux, pas à peu près, remporter un tournoi de Masters 1000, puis c'est pas banal dans une carrière. Là.
Non, 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 c'est un gros, gros, gros step. Ça va le propulser. Après, on va voir s'il va être capable de garder la confiance. Puis, tu sais, son niveau, le jeu qu'il jouait, j'ai vu trois matchs de Fritz, la manière qu'il jouait très, très offensif. Il dominait vraiment avec son coup droit. Reste à voir s'il va être capable de répéter ça semaine en semaine. Je sais pas, j'ai pas regardé l'updated ranking, je sais pas combien ça va l'amener, mais c'est sûr que ça va lui faire un saut. Il a fait la demi l'année passée, donc il gagne pas 1000 points, là, mais il va quand même faire un genre de 640 points. Donc c'est sûr que ça va le propulser dans le classement. Après, voir si va être capable de prendre le momentum, puis suivre là-dedans. Bon, il y a Miami, puis après, c'est sûr que c'est pas non plus la surface, tu sais, le clay swing, c'est un peu plus difficile pour Fritz, j'imagine. Mais bon, les jeunes comme ça, maintenant, sont quand même assez versatiles. Ils peuvent vous jouer sur toutes les surfaces. Reste à voir qu'est-ce qu'il va faire pour le reste de la saison.
Ben, pour répondre à ta question, Isad, il prend 7 rangs. Okay. Et puis, il va pointer au 13e rang, là, tout juste devant Denis Shapovalov, Taylor Fritz, avec cette victoire-là. Alors, il frôle, le top 10 et devient d'office l'Américain le mieux classé, là, si je ne me trompe pas. Mais si ce n'était pas déjà le cas. Enfin, il passera devant Denis Shapovalov. 7 rangs, c'est quand même pas banal. Et surtout, la façon dont il l'a fait là, contre les meilleurs joueurs depuis le début de la saison. Là, Hugues, on sait déjà qu'il ne jouera pas Miami, il va se reposer. Est-ce que vous voyez Rafael Nadal dominer sur terre battue comme il l'a dominé depuis le début de la saison, ou est-ce que sa performance en finale, même je dirais peut-être un peu envers la finale, parce que même contre Alcaraz, j'ai senti qu'il était peut-être un peu embêté et qu'il ne semblait pas à 100%. Est-ce que c'est inquiétant pour la séquence de terre battue, Hugues?
Évidemment, c'est sa surface. Il va prendre un peu de repos pour guérir ses bobos. On l'espère qu'il va revenir en pleine forme. Mais on sait aussi que la terre battue, c'est une surface extrêmement taxante. C'est souvent des longs matchs. Et là, tu as des joueurs qui commencent à être prêts à très bien performer sur terre battue. Je pense à Casper Ruud notamment. Je pense à Alcaraz qu'on a vu. Peut-être que Tsitsipas va nous refaire un très bon printemps sur terre battue comme il a fait l'an passé. Donc, c'est pas si évident que Nadal va encore gagner Roland-Garros cette année. Mais encore une fois, il faut jamais le compter comme perdant. Moi, c'est ça qui me jette par terre à chaque fois. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer sur terre battue dans quelques semaines.
Isad, ton feeling sur la performance de Nadal sur terre battue?
Clairement, je pense pas qu'on peut le voir ailleurs que le favori. Je suis très, très d'accord avec ce que Hugues a dit. Il y a des requins qui s'en viennent. Il y a des joueurs de terre battue qui sont très, très présents. Je sais pas, il est où Tim aussi là-dedans. Ça fait un petit bout qu'il n'a pas joué, mais la seconde qui revient au jeu, il faut qu'on le considère un des favoris aussi, surtout sur le clé. Je le prends comme favori, c'est sûr. Je peux jamais le compter. Il va avoir 50 ans, je vais le compter comme favori sur Terre. mais oui, non. Définitivement, là, il y a des gros joueurs en arrière. C'est des gars comme Tsitsipas, comme il a dit. Même Félix. Il y a des gars qui peuvent lui donner un fil à retordre. Le tennis est rendu tellement agressif que même sur terre battue, ça va vite. Oui, c'est taxant. Oui, c'est des longs matchs. Mais je crois qu'il est tellement confortable sur cette surface que même à une jambe, il peut être dangereux. Puis après, attends, il y a Djokovic aussi. Là. Djokovic, peut difficilement dire qu'il n'est pas favori dans un grand chelem. puis juste une parenthèse pour... J'en reviens vite là, sur Fritz. En étant 13e mondial, top 16, gros avantage dans les grands chelems pour le niveau seeding. Là. Quand tu es dans le top 16, tu t'assures de ne pas jouer un gros nom là, avant les rondes des 16. Donc... Oui, Nadal favori sur terre, tant qu'à moi, dépendamment de Djokovic.
Ben, Hugues, en tout cas, pas qu'on ne savait pas déjà, mais on a invité un remplaçant de première classe. Il vient nous le prouver. J'allais dire, moi aussi, Dominic Thiem, il ne faut pas l'oublier. Tu m'as pris d'avance parce qu'il bon, il n'a pas joué depuis le début de la saison, mais ça fait des années qu'on le considère comme étant peut-être le dauphin de Rafael Nadal sur terre battue. Il est excellent. Ironiquement, son premier grand chelem, il l'a gagné sur dur. Mais effectivement, il ne faut jamais le compter pour battu. Je pense qu'il n'y a personne qui va tomber en bas de sa chaise si Dominic Thiem remporte Roland-Garros un jour dans sa carrière. Messieurs, on va prendre un break des hommes. On va aller faire un tour. Avant. Je parlais de dauphin de Rafael Nadal. Hugues, tu voulais revenir sur la performance de Alcaraz parce que lui, à un tout jeune âge, commence à... Il en mettait déjà plein la vue, mais là, commence à s'imposer. Peut-être comme le... Écoute, j'ai souvent parlé de Medvedev comme le digne successeur au Big Three. Tant que son règne ne sera pas si long que ça, puis qu'il y a certains Alcaraz qui va essouffler dans le coup plutôt que plus tard.
Oui, je pense que c'est la force montante du tennis Alcaraz, c'est clair en ce moment. Ceux qui ont vu le début du match, là, juste avant le réchauffement, au moment du coin toss, on sait que Nadal arrive toujours très dynamique sur le terrain. Il sautait, il saute très haut, tout ça. Et Alcaraz faisait la même chose vis-à-vis lui. Il sautait plus haut. Il y a une photo, vous irez voir sur Internet, qui est sortie, où on dirait qu'Alcaraz fait ce que Nadal fait habituellement. Donc, on voyait une espèce de changement de la garde. Mais moi, c'est la maturité de son jeu pour son jeune âge et aussi son physique. Comment il a progressé au niveau physique, Alcaraz, depuis un an. Là, c'est un homme, là. C'est plus un adolescent, là. Donc, c'est vraiment impressionnant au niveau physique où il est rendu. Il est très calme. Il a une bonne tête. Il sait s'adapter à toutes les situations. Donc, Alcaraz pourrait être celui qui va venir bousculer ce nouvel ordre qu'on voyait en place aussi avec les Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Félix. Là, il faut compter Alcaraz dans le lot déjà. Il est rendu là. Il aurait pu gagner le match contre Nadal. C'est l'expérience qui a fait peut-être une petite différence ultimement. Mais wow, Alcaraz, nouvelle force du tennis, c'est clair.
Et il est peut-être meilleur que Rafael Nadal sur dur au même âge.
Oui.
Rafael Nadal était déjà...
Oui,
Il y avait, Nadal avait fait de la finale à Miami, là, on s'en rappelle, à, justement, contre Federer. Il avait pas ça, 18 ans? C'est pas ça, en 2005, à peu près 2004-2005, quand il avait fait un 5-7, il avait perdu contre, il a 2-7 à 0 contre Federer. Mais oui, je suis
possible.
peut-être d'accord avec toi, Alex. Il y a peut-être une petite coche, là, la manière qu'il frappe son coup droit, la manière qu'il se déplace. J'ai très hâte de le voir, c'est sûr, dans le futur. 2003, il est dans 2003, les gars, là. On s'entend-tu? 2003, il est jeune, là. Il est pas vieux, lui, là.
Sa plus grande force, selon toi, Izad, comme entraîneur, c'est quoi? À
Ouais.
Alcaraz.
À qui? Comment, moi, la manière qu'il est capable de contrôler avec son coup droit, c'est assez impressionnant. Puis il a l'air de tous les commentaires. Tu sais, je ne l'ai jamais vu jouer en vrai. C'est assez de me rappeler si je l'ai vu jouer l'année passée. Mais je ne l'ai jamais vu jouer live. Mais la manière que les gars ils parlent, puis de qu'est-ce que j'ai entendu sur le circuit, son coup droit, il a l'air débile. Il
Dévastateur.
a l'air n'importe quoi, comment il frappe fort. Tu le voyais justement, eux, comme il a dit, dans le vent, il était capable de contrôler et frapper fort contre le vent, qui est très difficile là, quand il y avait des vents aussi forts que ça. Capable d'aller dans l'ouverture puis de faire des winners contre le vent, c'est pour avoir joué, c'est pas là que tu mets à aller habituellement, puis il y allait, puis ça sortait de la raquette, là. Fait que je dirais de qu'est-ce que j'ai vu, la manière qu'il peut contrôler avec son coup droit, ça peut vraiment faire des dommages pendant longtemps, là.
Et
Voilà.
Alex aussi, il est très bien entouré, là. C'est Juan Carlos Ferrero qui est son coach, ancien numéro un mondial, champion de Roland-Garros, très, très grand joueur. Et ils ont l'air d'avoir une excellente relation, les deux, là. Donc, je pense qu'il a déjà son équipe bien en place à un jeune âge. Souvent, on se cherche un peu à cet âge-là, on change de coach. Là, je pense qu'il est sur une bonne voie pour un petit bout de temps. Il est bien entouré avec une équipe solide, déjà.
Ouais,
Ouais.
ben, tu fais bien de le dire. Et quand on regarde son parcours, là, il est incroyable à Indian Wells parce que déjà dès le deuxième tour, Mackenzie McDonald, c'est un Américain qui est très potable, qui n'est pas un match de premier tour si simple que ça. Après ça, Roberto Bautista Agut, Gaël Monfils qui venait de battre Daniil Medvedev,
Ouais.
Cameron Norrie, bon, plus besoin de présentation lui non plus. Exact, exact. Et Raphaël Nadal, bon, il n'a pas pu battre Raphaël Nadal, mais qui était capable de battre Raphaël Nadal à ce moment-là? Personne n'avait réussi depuis le début de la saison. Ça a repris Taylor Fritz en finale. Alors, parcours exceptionnel. Et peut-être qu'il aurait battu Nadal si ce n'était pas des adversaires compliqués qu'il avait eu avant. Peut-être, tu sais, je veux dire, il y a peut-être un peu de fatigue là-dedans aussi. Eux, t'as pas l'air
Mentalement.
convaincu? Ouais, peut-être
Mentalement,
mentalement également.
c'est difficile. Je pense que, tu sais, c'est pas Félix qui l'avait déjà dit ou Berrettini qui l'avait dit quand il avait joué Federer à Wimbledon. C'est difficile de passer par-dessus ton idole, ton mentor. Je pense que c'est la première fois qu'il jouait un contre l'autre, je crois. Ça se peut-tu? J'ai pas les stats à ce niveau-là.
Laisse-moi vérifier, mais je pense que oui.
Donc, tu sais, tu joues pour la première fois, ton mentor, ton idole, le gars, il a le double de ton âge. C'est clairement lui que tu as regardé quand tu étais jeune. Là. On s'entend, en Espagne, il s'en foutait pas mal de Federer, d'après moi, Alcaraz. Donc, il a regardé Nadal toute sa jeunesse. C'est sûr que la manière qu'il a commencé le match, moi, j'étais sûr qu'il passait, puis ça allait être un 2-2. Mais je pense que c'est un peu venu à lui aussi, là.
C'était le deuxième affrontement entre les deux joueurs.
Deuxième, moi, oui.
Raphaël Nadal l'avait rossé sur terre battue en 2021. Alors, c'était le deuxième affrontement. Mais il reste que,
Ah
tu sais, je pense que là, Nadal mène la confrontation 2-0. Il ne faudrait pas se surprendre de voir ça 2-1 assez rapidement. Bon, maintenant qu'on a fait notre pas sur Alcaraz, bon, on sait déjà qu'il faut, depuis longtemps qu'on veut le suivre, on va continuer de le suivre. Ben, du côté des femmes, il y en a une qui est pas bien ben plus vieille, mais qui fait des flamèches, pas à peu près elle aussi. C'est une ancienne, elle, déjà championne de Grand Chelem. Celle qui porte le nom du stade à Montréal, IGA, IGA. C'était ça le point. C'est qu'elle a son propre stade déjà à Montréal. Iga
parfait.
Swiatek qui l'emporte. Messieurs, moi, je vous le dis tout de suite, là, je l'ai déjà mis championne à Miami. Back-to-back titre. Surprenant cette victoire-là, Hugues, ou est-ce qu'elle est rendue à un niveau où elle atteint une certaine stabilité, puis ben, elle est à prendre au sérieux à chaque tournoi?
Ah ouais, ouais. Là, écoute, elle passe au deuxième rang mondial. Donc, changement aussi dans la hiérarchie du top 3 du côté féminin. Donc, tu as Swiatek et Sakkari qui rentrent dans le top 3. Je dois quand même dire que Ashleigh Barty reste confortablement installée avec 2000 points d'avance au premier rang. Mais là, il se passe quelque chose. Puis Swiatek est vraiment, en plus, de loin la plus jeune du top 10. Donc, je pense qu'elle est en train de s'installer effectivement. Pardon?
2001. Non,
2001. Exact. Donc, Swiatek, numéro 2, bien installé. Moi aussi, pour cette semaine, je la vois très haut parce que elle a quand même gagné sa finale quand même relativement facilement. Là. C'est un match qu'elle a dominé contre Sakkari. Donc, Swiatek, je pense qu'elle est là pour rester. Elle va être une challenger pour Barty dans les prochains tournois cette année. Puis je tiens à mentionner quand même la performance de Simona Halep, là, qui revient un peu aussi de nulle part. Moi, je la voyais plus là, vraiment revenir dans le top 10, top 15. Et là, c'est parti. Elle monte de 7 positions cette semaine. Elle fait un superbe tournoi pour se rendre jusqu'en finale. Elle arrive maintenant au 19e rang. Elle est passée du 26e au 19e rang là, après Indian Wells. Donc, superbe tournoi de Simona Halep. Mais Swiatek, pour conclure, là, c'est la vraie numéro 2 en ce moment. Et celle qui va challenger Barty, j'ai l'impression, dès cette année.
Ouais, puis je veux dire, tu sais, elle est déjà championne de Grand Chelem, elle est particulièrement solide. Toi, Isad, dans les dernières semaines, moi, tu as été beaucoup impliqué dans le tennis féminin, notamment avec Rebecca Marino. Est-ce que tu as eu le temps de regarder quand même du coin de l'œil Swiatek dans les dernières semaines? Cette semaine?
Je dirais que j'allais beaucoup, beaucoup regarder jouer là, en 2019 puis 2021 quand j'étais avec Bianca plus, parce que bon, Rebecca, on s'entend que c'est pas le, pour l'instant, c'est pas la compétition pour elle directe. Bianca, on avait peut-être affaire à la jouer à quelques reprises, on l'a jamais joué. Son style de jeu est très, très unorthodoxe. C'est pas super joli, entre guillemets, quand on la regarde jouer, mais c'est très efficace, très, très efficace. Elle remet beaucoup, beaucoup de balles. Elle est agressive, très très compétitrice, elle veut pas perdre, classique mentalité Europe de l'Est, Nakamura, elle est vraiment greedy, puis elle veut vraiment pas donner un point, puis on l'a vu à Indian Wells, elle a vraiment donné une coupe de volée à une coupe de filles, là. Ça a été quelques matchs qui ont été très très sains, je pense contre Keys aussi qu'elle a gagné 1-0, quelque chose du genre. Donc, oui, elle a un jeu qui est très efficace du côté féminin. Elle n'est pas très, très grande, pas très, très grosse. Ouais. Mais je pense que la manière qu'elle bouge puis qu'elle joue, c'est très efficace. Donc, je pense qu'elle a un bel avenir. Pas vieille non plus, 21 ans. Gagné un grand chelem, comme tu as dit, Alex, elle a gagné Roland Garros, si je me trompe pas. Fait que, ouais, elle va être tough à battre. Est-ce qu'elle va faire le back-to-back aux États-Unis, Indian Wells, Miami, ce qui est très, très difficile? Je pense qu'elle est fraîche. Je pense qu'elle vient à sort de Indian Wells sans trop d'écorche, sans trop physiquement être affaiblie. Donc, ouais, je pense que ça peut le faire. J'ai pas vu, est-ce que Barty, elle joue finalement à Miami ou non?
Ce serait. Non, elle n'est pas dans le tableau. Non, elle n'est pas dans le tableau.
Un gros swing, là, mais elle avait quand même 1000 points à défendre. Là, ça va être, c'est sûr que là, il y a un gros swing qui peut se passer. Là. Si tu me dis qu'elle avait 2000 points d'avance, elle va perdre ses points de Miami de l'année dernière.
Ouais.
Je crois que Barty a. Mérite encore pleinement d'être numéro un, mais Swiatek, elle peut se rapprocher assez, quand même assez proche là, si on s'entend que Barty va perdre toutes les 1000 points qu'elle devait défendre. Là.
Exact. Et il ne faut pas oublier que, bon, je parlais de séquence de victoire dans le cas de Swiatek. Elle a remporté un tournoi au Qatar à la fin février. Elle n'avait pas joué depuis. Alors, elle est sur une séquence de victoire assez exceptionnelle. Et au Qatar, bon, elle avait battu justement Sabalenka, Sakkari, Kontaveit pour remporter le tournoi. Ouais. Ça, c'est trois joueuses parmi les meilleures au monde. Et cette semaine, encore un parcours phénoménal. Tu sais, déjà, dès le deuxième tour, Clara Tosin, on en a déjà parlé, c'est une des jeunes filles, femmes sur le circuit. Qui va être à surveiller dans les prochaines années. Robbie Ménard en a déjà parlé. Après ça, Angélique Kerber, championne de Grand Chelem. Madison Keys, comme tu le mentionnais, 6-1, 6-0. Même pas de compétition contre une fille qui connaissait un excellent début de saison, qu'elle a connu. Très bon départ en Australie. Simona Halep, ben là, comme tu le dis, c'est un peu une resurgence pour Simona Halep. Et c'est quand même une des filles qui est déjà considérée comme une des grandes joueuses de sa génération. Pas banal non plus comme parcours. Et Maria Sakkari, une fois de plus, je veux dire, c'est un parcours assez exceptionnel là, dans le cas de Swiatek. C'était pas un tournoi facile. Là.
Non. Sakkari, elle mérite pleinement aussi son ascension dans le top 3. Là, très content pour elle. fille avec un style de jeu très le fun à regarder. Tough à dire, là, mais un peu la Nadal du tennis féminin, dans le sens que elle est là en arrière, elle se donne, elle est physique.
Ouais.
C'est vraiment, je trouve que c'est un beau tennis à avoir joué. Puis elle donne du fil à retordre à beaucoup de filles, donc elle mérite pleinement. Je suis content pour elle, le top 3.
Ouais, exact. Hugues, tu voulais acheter.
Je voulais dire que justement, Sakkari qui a battu Paola Badosa en demi-finale, là, c'était une belle victoire pour elle, mais elle arrive contre Swiatek. Elle se prend 6-4, 6-1 en finale. Ça montre que Swiatek est une petite coche au-dessus de ce groupe de joueuses-là qui, pour moi, sont les meilleurs juste après. Le Badosa, Sakkari, Kontaveit, c'est elle là, qui semble jouer au mieux dans le top 10 en ce moment, mais tu vois que Swiatek est une petite coche au-dessus. Mais moi aussi, Sakkari, on l'a vu monter, travailler fort depuis un an et demi. C'est vraiment le fun de l'avoir arrivé à la troisième position. C'est très bien mérité.
Et peut-être un certain chargement de garde, messieurs, là, je regarde ça tranquillement. Du côté des femmes, Swiatek, 5 pieds 9, Sakkari, 5 pieds 8, Simona Halep, pas grande non plus. Est-ce qu'il y a un changement au Léla. Niveau du tennis? Ben, Léla, excellent Léla. Point. Léla, ouais. Annie Fernandez. Isard, est-ce qu'il y a un changement au niveau du tennis? C'est-à-dire que, bon, les grandes et puissantes joueuses, écoute, sont pas eux qui dominent le tennis.
5 et 9, c'est pas petit non plus.
Non, c'est pas petit, c'est sûr.
C'est pas une Schwartzman à 5 et 5, là, parce que bien que c'est à peu près ça. Ben, c'est sûr que les Kvitova, Pliskova, qu'on était peut-être habitués dans le top 5, là, qui sont plus comme 6 pieds, 6 pieds 1. Parce que Serena était quoi? Elle était 5 pieds 9? Elle était dans ce point-là, Serena?
Ouais.
Donc, ben oui, le tennis féminin aussi se modernise, puis on voit beaucoup plus de all-around players du côté féminin, ce qui est le fun, qui est agréable, un peu comme dans tous les sports en général. Je pense que le tennis, le niveau féminin monte, ce qui est intéressant. Les filles ont plus de training, les filles ont plus de ressources. Je suis très, très content de voir ça. Les filles sont pas juste aussi unidimensionnelles, sont capables de faire un petit peu plus de trucs avec la balle, qui est intéressant. Elles commencent à servir. Même à 5 et 9, les filles ont quand même des bons serves. Tu vois plus des filles comme dans le temps qui servent à 30 000 à l'heure et qui sont capables de gagner des matchs. Faut qu'ils servent, faut qu'ils se maîtrisent bien, faut qu'ils soient capables de slicer un petit peu. C'est moins du je tape à plat puis si je tape plus fort que toi, je gagne. T'sais, c'est un petit peu moins de ça, donc c'est un peu plus intéressant. Je pense que la popularité aussi monte un petit peu, ce qui est un petit peu l'objectif du côté féminin. Il commence à avoir plus de monde qui suivent ça, qui sont dans les estrades et tout. Parce que tu reviens quelques années derrière, on s'entend que le tennis féminin entraînait moins de foule. Je ne dis pas que le tennis féminin est moins intéressant à regarder, mais il y avait du travail à faire, puis je pense que ça s'améliore.
Ben d'ailleurs, parlant de ce travail-là à faire, Hugues, je rappelle que tu as coproduit et organisé une rencontre dans le cadre de la Journée de la femme sur le tennis féminin et le travail à faire qu'il y a dans le tennis. Peut-être te rappeler un peu ce projet-là, prendre une ou deux minutes là, puis où on peut écouter ce projet-là.
Oui, ben allez voir sur le site de Tennis Canada, ces deux tables rondes, Montréal et Toronto, avec des pionnières qui nous expliquent par quoi elles sont passées depuis deux décennies, trois décennies, et qu'est-ce qui reste à faire encore au niveau de l'équité, au niveau du fait que les jeunes joueuses persévèrent dans le tennis. On sait que beaucoup de joueuses arrêtent vers 13-14 ans, et souvent, c'est pas pour les bonnes raisons. Donc, tout ce programme-là qui s'appelle Women and Girl Advancement in Tennis est un gros programme pour Tennis Canada cette année, commandité par la Banque nationale, le commanditaire en titre de l'Omnium Banque nationale, évidemment, mais qui est un grand contributeur au tennis au Canada en ce moment. Beaucoup de bonnes discussions, très intimes aussi sur la relation des joueuses actuelles et passées avec le circuit, avec le sport, avec des situations qu'elles ont vécues. On a eu Bianca Andreescu, notamment, Sharon Fishman, Jennifer Bishop, qui est la chair du board de Tennis Canada à Toronto, Valérie trop, Alexandra Wozniak, notamment à Montréal, Marie-Ève Pelletier, des discussions vraiment intéressantes. Donc, allez faire un petit tour sur le site de Tennis Canada pour voir cette discussion-là. Et tout le long de l'année, il y aura des prises de parole sur ces sujets-là avec ce groupe de femmes.
C'est deux discussions d'environ 45 minutes, mais oui. Elles valent la peine d'être écoutées. C'est vraiment intéressant. Ça s'écoute comme un podcast. Et puis, c'est visuellement aussi assez intéressant. Alors, Hugues, je souligne à nouveau, excellent travail de ce côté-là. avant qu'on termine le bloc sur les femmes, justement, je vais peut-être mentionner que, bon, lors du dernier épisode, on s'est parlé avant la défaite de Leila Annie Fernandez. En fait, quelques heures plus tard, elle est éliminée du tournoi en simple, mais elle a quand même fait la demi-finale en double. Et puis, ben, ça, c'est intéressant parce que ben, c'est des matchs de plus derrière la ceinture. Hein.
Oui, puis le 6-4-6-4 contre Badoza, c'est pas une mauvaise défaite. Elle était vraiment, on dit tôt en anglais, là, ça frappait vraiment, vraiment bien. Donc, je pense que c'est un match où elle a appris beaucoup aussi. Donc Leila, encore une fois, au niveau de son classement, c'est intéressant ce qu'elle a fait. C'est une bonne performance qu'elle a fait à Indian Wells quand même. Donc, tout va dans le bon sens pour Leila.
Ouais, c'est un très bon match. J'ai eu la chance de le regarder aussi. Elle s'est bien battue contre Badoza. Elle a eu quelques chances, quelques opportunités. Badoza, une fille qui est hot sur le circuit en ce moment. Puis oui, elle est demi en double, très bon. Faut pas oublier aussi Dabrowski qui a fait de la demi en double aussi.
Mm-hmm. Ben oui, tu fais bien de le souligner. Puis faudrait pas l'oublier parce que Dabrowski, c'est une des meilleures joueuses de double au monde, assurément. Je pense pas me tromper en disant que c'est un peu la Danielle Nestor du côté des femmes. Peut-être avec moins de titres un peu. Ça te fait sourire, Izad?
J'écoute, mais c'est d'autres choses qui me fait sourire en face de moi. Mais... c'est vrai, genre, je suis très d'accord que c'est comme la Nestor du tennis féminin avec moins de titres. C'est right on.
C'est ton chien qui fait des foleries.
Ouais, je ne le montrerai pas à la caméra, mais il fait des millions avant moi, puis je ne fais pas la fin.
All right. Hey, messieurs, on va faire une courte pause. Au retour, changement de règlement en Grand Chelem. On a uniformisé tout ça. Super bris d'égalité pour au compte, on en parle. Après la pause. Alors, messieurs, ça a été un sujet, je pense, qui a fait pas mal jaser dans la dernière semaine parce qu'on a annoncé qu'on allait suivre, si je ne me trompe pas, le modèle australien et avoir un super bris d'égalité dans tous les tournois du Grand Chelem. Ça veut donc dire que des matchs comme Nicolas Mahut et John Isner, on ne verra plus ça. Commentaire général, messieurs, avant qu'on débatte, façon de parler, qu'on donne notre opinion, à savoir si c'est une bonne chose et comment vous recevez ça. Peut-être commentaire général, Hugues, toi, sur je vais aller avec l'aspect marketing. Est-ce que c'est bon qu'on uniformise tous les tournois du Grand Chelem, que ce soit plus simple pour tout le monde, le même règlement dans tous les tournois, ça va être plus simple pour le téléspectateur de savoir à quoi s'attendre. Est-ce que le gars de marketing en toi trouve que c'est une bonne chose?
Moi, je suis un peu partagé sur ça entre l'amateur de tennis historique que je suis et le marketeur que je suis aussi. Évidemment, ce match de 70-68 au tie-break du cinquième set entre Mahut et Isner en 2010, match qui avait duré 8 heures et 11 minutes sur 2 jours. Tout le monde s'en souvient encore.
Mais c'est ça m'a plus passé que sur 3 jours.
Trois jours. J'avais pris 8 heures à jouer. Ouais. Mais ça nous amène au cœur du problème. Le problème, c'est la durée des matchs. C'est compliqué pour les diffuseurs, pour les partenaires. C'est très dur à gérer. Et on sait que les plus jeunes, leur niveau d'attention pour suivre un match de 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures, il est plus là. Les gens regardent des faits saillants maintenant. Les plus jeunes, on ne regarde même pas des matchs au complet. Donc, il y a vraiment un enjeu pour les nouvelles générations. Cela dit, ce cinquième set sans tie-break faisait partie de l'unicité des Grands Chelems qui rendait ça vraiment, vraiment excitant. Et je pense que c'est pour ça que l'ITF annonce, donc ça va commencer avec Roland Garros, que c'est un essai. Hein? Il parle de trial basis pour cette année. Donc, on verra ce que ça va donner. C'est pas définitif, ce nouveau changement de règlement-là. Donc, on verra. Mais je pense que côté marketing... Oui, c'est une bonne décision. Je pense qu'il faut trouver des moyens d'accélérer un peu les matchs. Mais de commencer ça dans les Grands Chelems, là, ce qui fait encore une fois l'unicité des Grands Chelems et la particularité de ces plus gros tournois, ça fait mal un petit peu à voir. Donc, on verra ce qui va se passer. Mais moi, je suis encore dubitatif là, sur le fait que c'est un règlement qui doit être imposé tout de suite. Il y a peut-être d'autres façons d'accélérer les matchs aujourd'hui que de passer à la règle du Super Tiebreak.
Ah, c'est intéressant ça, parce que toi, tu es quand même un puriste, je dirais, là, dans le tennis, et j'aurais pensé que tu aurais sauté plus sur les murs, mais non, tu es quand même assez nuancé. Izad, toi, tu l'as joué la game, et je pense que c'est vraiment un règlement qui fait plus plaisir aux joueurs, je pense, qu'au réseau de télé puis aux partisans. Ben, je pense que c'est vraiment pour les joueurs que ça fait une différence.
Oui, 100%. Je peux te dire qu'il ne doit pas y avoir bien, bien de joueurs qui sont déçus d'entendre ça aujourd'hui. Un grand chelem, c'est déjà assez demandant physiquement, que de savoir que tu sais pas quand tu vas sortir du terrain. Tu joues contre un Opelka, un Karlovic, un gars de même. Même, en fait, n'importe quel joueur, tu peux te rendre là quand même. Mais c'est sûr que ça peut être mentalement épuisant. Puis savoir que tu peux être là une, deux, trois journées, c'est sûr que c'est top. Moi, personnellement, j'aimais bien le processus que Wimbledon avait entamé à 12-12, on fait un
Ouais,
tie-break. Okay?
moi aussi.
Ça, je peux voir, tu sais, tu dis, OK, on joue un set d'extra quand même, tu joues un 12 games de plus.
Ouais.
Moi, j'aimais bien ce niveau-là. Déjà, de voir que ils mettent un super tie-break, puis non, comme au US Open, un tie-break normal, déjà, je pense que c'est gagnant. Niveau spectateur, j'aimais bien. C'est sûr que ça fait longtemps qu'on est dans le tennis, nous. Donc, j'aimais bien le fait que dans les grands chelems, on peut continuer. Après, je pense pas que c'est un règlement qui va être débattu beaucoup par les joueurs, là. Ça
Non, ça c'est
va
certain.
être très, grandement apprécié, je pense.
Exact. Bon.
Toi, Alex, qu'est-ce que t'en penses? Tu as l'air un peu mitigé.
Enfin, moi, quand j'ai reçu la nouvelle, comment dire, j'étais un peu déçu. Parce que ce sont ces matchs-là qui marquent l'histoire. Ce sont ces finales-là qui marquent l'histoire. Puis, OK, oui, le spectateur a peut-être un temps d'attention moins grand. C'est peut-être vrai, plus vrai chez la jeune génération. Mais il n'y a personne qui décroche à 21-20, là. T'es sur le bord de ta télé, tu décroches à 2-0, à 3-0 au premier set, mais pas en fin de match, quand chaque coup est un coup sur la ligne. Alors, moi, j'ai un peu. Je comprends toute la logique, je comprends la logique télévisuelle aussi, puis pour les horaires, puis pour les joueurs, je la comprends tous. Mais comme fan de tennis, je me dis, ce sont ces moments-là dont on se rappelle. Tu sais, je veux dire, Nicolas Mahut, John Isner, tout le monde va s'en souvenir. Et ces moments-là, ben, on les aura plus, on va les vivre d'une certaine manière. Et comme tu le dis, Isab, moi, j'aimais bien la formule de Wimbledon aussi. C'est-à-dire, on joue quasiment un set de plus, puis regarde, ça va arriver souvent que ça va briser de toute façon avant que ce soit 12-12, là. Puis effectivement, moi, je trouve que c'est une bonne solution hybride. Moi, j'aime bien le super tie-break dans des formats showcase. Tu sais, comme la Coupe Laver, comme, bon, mais en tout cas, ça me dérange pas de regarder un match de 3 jours d'année. Je comprends que c'est pas l'idéal,
Non, mais je
est-ce
suis
que ça
d'accord avec
arrive?
toi, moi, je comprends ton point à 100%. Moi, je le partage un peu, comme tu dis, des matchs, mais on s'entend que c'est en plus c'est la faible minorité qui vont se rendre à 16-14. Puis moi, c'est pour ça que j'aurais aimé ça que tout le monde applique le premier. Avant de passer drastiquement à on n'a pas de limite, on revient à 6-6, je pense que pour une fois, les Anglais avaient fait de quoi de bien. On aurait peut-être dû les écouter.
Et là, il y en a aussi qui ont soulevé le point que ben, c'est un peu inéquitable parce qu'on règle un problème d'hommes seulement, d'une certaine manière. Hugues, t'en penses quoi?
Ouais, ben effectivement, c'est encore un sujet qui fait qui dit bon, quelle est la valeur du tennis féminin, quelle est la valeur du tennis masculin? Donc oui, je pense pas que ça fait une différence. Ça ramène toujours, on dit toujours bon, les femmes jouent moins longtemps que les hommes, tout ça, est-ce que ça fait que la bourse devrait valoir un peu moins? Moi, je suis pas d'accord parce qu'on a vu les codes d'écoute de Bianca et de Leila en finale ou les codes d'écoute des finales féminines au US Open était plus haute que les cotes d'écoute au niveau féminin. Donc, non, moi, je pense qu'encore une fois que de raccourcir un peu le temps ultimement, c'est pas une mauvaise chose. Puis je pense que ça devient un faux débat à un moment donné.
Bon, on y reviendra parce que ça reste quand même un débat intéressant parce qu'il reste que les droits de télé du côté des femmes sont beaucoup moins élevés
Pour
du côté
l'instant.
des hommes. Et je ne veux pas en faire un débat nécessairement,
Oui.
mais
Est-ce que je suis pas au courant, j'imagine on l'a pas enlevé, on n'a pas mis de tie-break pour les filles, les filles continuent.
non, en
C'est
fait, c'est que.
aussi le troisième set, eux, ils continuent à jouer, là, habituellement, ils n'arrêtent pas à 6-6 les filles habituellement. Ils peuvent prendre à 16-14.
En fait, le point que j'apportais, c'était plus de dire, ben, on s'est posé la question parce qu'on voulait régler un problème qui est majoritairement du côté des femmes. C'était plus ça, en fait, la question. Puis, tu sais, comme je disais, je ne veux pas en faire un débat homme-femme, c'est pas ça. Éventuellement, peut-être qu'on le fera parce qu'il est intéressant de faire ce débat-là, parce que la question se pose à savoir est-ce que les femmes devraient jouer aussi longtemps ou pas que les hommes en grand chelem sur un 3-7 ou un 5-7. C'est quelque chose qui se défend. Je veux dire, d'un point de vue de la logique,
ça
se défend.
Il n'y aurait pas le niveau de jeu dans le 4e et 5e set que vous verriez du tennis féminin ne serait pas au niveau qu'on espérait. Si on amènerait un 4e ou un 5e set.
Moi, je pense que ça prendrait peut-être une solution hybride. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous lance ça, messieurs. Si on faisait pour les hommes et pour les femmes, les deux, jusqu'au quart de finale, 2-3. À partir des quarts de finale, 3-5. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait viable et intéressant selon vous? Pas sûr.
Dans le sens, du côté masculin, je pense pas qu'on aurait rien changé. Le système, il est bon. Les gens adorent les grands chelems. C'est ce qui fait que les grands chelems est spécial, c'est que tu joues en 3-5. Donc, si tu dis, bon, les quatre premières rondes, on t'enlève, on met ça en 2-3, faut se distiller un petit peu à niveau prestige des grands chelems. Après, pour les filles, si on peut rajouter des sets quand c'est les meilleurs au monde, je te dis, bon, pourquoi pas. Mais est-ce que le fait de changer dans un. OK, la deuxième semaine d'un grand chelem, elle joue en 3-5 du côté féminin, je serais curieux de voir ça serait quoi le pignon de la joueuse. Puis encore une fois, d'expérience, je pense pas qu'on veut voir des 3-5 chez les filles. Je pense pas.
Tu penses vraiment que les filles ne voudraient pas jouer des 3-5 nécessairement? Non. Ben, je comprends. C'est comme si tu demandes à n'importe qui, ça tente-tu de travailler plus longtemps pour la même salaire?
Je pense que c'est juste, je crois qu'on le sait, là, je veux pas me mettre les pieds dans les plats, dans n'importe quel sport, on s'entend que la femme en tant que telle n'a pas les mêmes capacités que l'homme, right? Je veux pas sembler que je bâche la femme. Vraiment pas. Comme je te dis, je coach jusqu'au féminin. Donc, je pense vraiment pas que ça serait aussi excitant un 4e et un 5e set du nouveau féminin.
Je serais curieux de le voir, là, honnêtement. Puis je sais pas si ça arriverait si souvent que ça. Vous semblez pas très emballé de ma proposition. Je pense que ça passera pas qu'on dise Hugues dit non.
Non, ben deux choses. Du côté masculin, moi je serais pas contre jusqu'à la finale être en 2-3 pour préserver le côté physique des joueurs. On voit ce Canada dans quel état il était à sa finale. C'est pas un grand chelem, on s'entend, mais quand même un tournoi sur 2 semaines, 7 matchs à gagner. D'accélérer les tours 1, 2, 3, 4, 5 et de garder le 3-5 pour la finale seulement. Ça serait moi une solution que je regarderais parce que c'est pour le grand, c'est pour le trophée, évidemment. C'est le grand match. Donc, j'irais peut-être sur cette formule-là pour plein de bonnes raisons en termes d'accélérer le jeu pour les diffuseurs, en termes de préserver le côté physique des joueurs pour le match ultime s'ils s'y rendent. Donc, ça, c'est du côté masculin. Du côté féminin, ça a déjà été essayé dans les années 90. Je pense que Graf avait fait une finale de Master féminin en 5-7 contre Maliva ou je suis pas certain. Faudrait qu'on revérifie, mais il y a déjà eu des matchs 3-5 du côté féminin, mais je pense aussi que ça ne rendrait pas service au jeu. On sait déjà que, Isad, tu le sais très bien, tes coachs, là, que les filles gèrent, comme les gars, leur pic durant l'année, leur énergie et tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de joueuses qui seraient brûlées en cours d'année avec cette formule-là. Donc, je pense que c'est
pas une bonne idée. Tu verrais des blessures énormes du côté féminin.
Exact. Il y aurait des blessures aussi.
Je pense pas que ça allait avoir. Mais du côté masculin, je suis content que tu amènes ça, mais en même temps, faut qu'on se rappelle là, quand même à Grand Chelem, ils ont une journée de congé à tous les jours. À tous les deux jours, tu as une journée de congé.
C'est vrai.
Puis oui, tu vas être épuisé, tu vas être taxé physiquement, mais tu l'es taxé physiquement aussi dans les Master 1000 que tu joues à tous les jours, 1-2-3. Ouais. Donc, on s'entend, il y a des prix à payer pour se rendre en finale d'un tournoi. Puis je pense pas tant que ça que c'est à cause d'un 3-5. Je pense que c'est juste comment le tennis est rendu physique. Oui, c'est sûr qu'on s'entend, tu mets 1h30, 2 heures de plus sur le terrain, c'est sûr que tu vas être plus fatigué. Mais je pense pas nécessairement que ça ferait Encore une fois, plaisir. Je pense que ça donnerait du glamour au grand chelem de dire bon, on est 2-3 puis on a une journée de congé entre tous les matchs. Les gars, ils arriveraient. Puis, je pense que ça enlèverait un peu le prestige d'être vraiment une bête physique. En ce moment, je suis du côté masculin. Les gars, ils savent. Là, les gars, ils se promènent. Même du côté féminin, on s'entend. Tu sais, sa carrière, elle se promène. Là, puis le monde, ils savent qu'elle est en forme. Le monde, il joue contre Djokovic. Ils savent que. Hey, pack ton lunch, mon homme, parce que tu ne seras pas sorti de là. Là. Fait que ça, je pense que c'est une mentalité que si tu mets ça en 2-3 d'un grand chelem, il y a plus des one-hit wonder qui vont arriver, qui peuvent bang un 2-T. Tu l'as vu, là, Musetti qui menait 2-7-0 contre Djokovic à Roland.
Ouais.
Mais pourquoi il n'a pas gagné? Le gars, il a 18 ans, l'autre, c'est une machine physique, mais à un moment donné, il a wear out l'autre. Ouais. Je pense que ça lèvera un petit peu le edge des bêtes que de dire, hey, on joue 2-3, tu peux n'importe quoi peut se passer. T'sais.
Ah, ben ça, t'as tellement raison. Puis, tu sais, je trouve que c'est un point intéressant à apporter de dire, ben, il y a aussi l'aspect physique, tu sais, de dire, ben, qui va toffer la run le plus longtemps, qui devient caduque d'une certaine manière si t'enlèves les trois tirs. Et juste pour répondre à ta question, Isab, là, parce que tantôt, je l'ai un peu dévié parce que j'étais sur le débat de féminin, puis je n'ai pas trop conscience dedans. Ça va s'appliquer à hommes, femmes, juniors en grand chelem. Peu importe si tu joues en grand chelem, que tu sois en chaise roulante, debout, hommes, femmes, le super tie-break va s'appliquer. Juste pour
OK, donc les filles ont accepté le super tie-break aussi en troisième. Il n'y aura plus de...
Super okay. tie-break, exact. Voilà, et ça commence dès le prochain Roland-Garros.
Oui.
Donc, ça va être là. C'est dans quelques semaines. Oui, exact. Exact. Messieurs, ben intéressant. On va faire une courte pause. Au retour, on va terminer l'émission avec ce qui s'en vient du côté de Miami. Oh, messieurs, c'est le temps de vous rappeler que vous pouvez faire vos prédictions sur le site de Tennis Canada. Ouais. Hier, quand j'ai vu que le tableau était sorti.
Les femmes,
ouais, du côté des femmes, c'est notre gestionnaire de médias sociaux, spécialiste des médias sociaux, Abraham Santerre, qui était sur le gun et qui nous l'a confirmé. Ben, moi, je suis déjà allé remplir mon tableau. J'invite tous les gens à en faire autant. C'est vraiment le fun. Il y a des prix à gagner. Vous pouvez le faire sur toute l'année. C'est une méchante belle initiative de Tennis Canada. Je le rappelle, souvent, les poules de tennis, l'interface, c'est pas ce qui est le plus plaisant à l'œil. Isad, je sais pas si tu en as fait beaucoup dans ta vie, des poules de tennis. Toi, tu jouais les tournois, c'est pour ça que nous autres, on fait des sélections pendant que toi, tu jouais. Mais l'interface du site de Tennis Canada, elle est sublime, elle est vraiment cool. Moi, j'ai déjà fait mes tableaux. En fin d'émission, je vous révélerai peut-être mes champions. Du côté de Miami, on sait que Raphaël Nadal ne sera pas là. Du côté des femmes, on sait également que Ashleigh Barty ne sera pas là. Hugues, qui vas-tu surveiller du côté de Miami?
Ben moi, je suis toujours dans le même groupe. Là. Les Kontaveit, Badoza, Swiatek maintenant, Sakkari, là, c'est vraiment là que ça se joue. J'ai mis une finale Kontaveit, Badoza. J'ai pas choisi ma gagnante encore. Je me réserve encore la journée pour la choisir. Mais on va avoir un tournoi, je pense, qui va ressembler beaucoup à Indian Wells du côté féminin. On verra si Simona Halep peut confirmer aussi sa belle performance de la semaine dernière. Et du côté masculin, ben encore une fois, Djokovic ne jouera pas, Nadal sera pas là, des opportunités. Je pense que Medvedev, Félix vont vouloir un peu racheter leur tournoi de la semaine dernière. Donc, puis effectivement, le tableau des prédictions sera ouvert là, pour les hommes au courant de la journée sur le site de Tennis Canada, si vous voulez le remplir. C'est toujours le fun de se mesurer à nos collègues.
Sabalenka est la première tête de série dans ce tournoi-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire, Sabalenka, parce que, bon, elle n'a pas fait beaucoup de feux d'artifice depuis le début de la saison. Peut-être qu'en étant première tête de série, ça va l'aider. Leila Hany Fernandez est dans ce tournoi-là, évidemment, monsieur. Pardon? Elle a un bail au premier tour.
Aussi, j'avais deviné, mais... Après ça, j'ai la gagnante de qui?
Elle jouerait la gagnante de Mukova contre Martine Kovac, qui devrait être assez prenable. Elle a possiblement au troisième tour, là, ça serait déjà compliqué, là. Elle va avoir dans les pattes possiblement Osaka ou Kerber. Ça serait assez compliqué, mais...
Et comme t'avais été après.
Oui, exact. Elle est là depuis le début de la saison. Elle n'a pas eu de mémoire là, des tableaux nécessairement faciles. Toi, Isad, est-ce qu'il y a une joueuse que tu vas surveiller en particulier? Vas-tu avoir le temps de surveiller une joueuse ou tu vas déjà être de retour sur la route?
Non, je vais avoir le temps. Je vais être encore à la maison. Donc, je vais pouvoir suivre de près un petit peu comme j'ai fait à Indian Wells. J'ai bien hâte de voir comment Sabalenka va rebondir. On s'attend beaucoup d'elle cette année. Je pense que, comme vous venez de dire, là, elle ne répond pas vraiment aux attentes depuis le début. Donc, j'ai bien hâte de voir comment elle va rebondir. Osaka, après, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu là, à Indian Wells? Toujours intéressant à voir comment elle peut sortir, comment elle peut jouer. On s'entend qu'elle peut sortir puis gagner le tournoi n'importe quand. Puis après, savoir comment une jeune Swiatek qui arrive après une victoire. C'est jamais vraiment facile d'arriver. On l'a vu avec Randy Canou, on l'a vu avec plein de joueurs. Tu viens de gagner un bon titre. C'est sûr que là, c'est pas son premier titre qu'elle gagne, mais c'est jamais facile d'arriver. Enchaîner, elle a gagné hier, elle a voyagé probablement aujourd'hui, journée de congé aujourd'hui, pratique demain, elle va jouer mercredi. T'sais. Donc c'est pas facile d'enchaîner comme ça. Bon, je vais peut-être pas mercredi, peut-être sûrement plus jeudi, puisqu'elle a un bail. Jeudi ou vendredi, j'imagine. Mais peu importe, c'est quand même beaucoup de matchs en pas beaucoup de temps. Donc, on va voir comment elle va réagir. Du côté féminin, ça ressemble à ça. C'est sûr qu'on suit toujours Leila, une petite fille d'ici. Donc, avec le tableau que vous venez de me dire, ça sera pas facile. Mukova, Martinkova, c'est tough même au premier tour. Là, oui, c'est prenable, mais c'est des filles qui sont capables quand même d'aller loin dans les tableaux. Ça va être intéressant. Puis du côté masculin, un petit peu, comme vous avez dit encore une fois, Medvedev qui c'est sûr qu'il va être un peu sour, qui n'aime pas ça perdre tour d'un tournoi. On s'entend. Daniel, il est très, très compétiteur. Il veut gagner. Félix, après une décevante défaite, on a bien hâte de voir ça. Puis encore une fois, Fritz, moi, j'ai bien hâte de voir comment lui il va ressortir. Il semblait aussi qu'il avait mal quelque part. Il va jouer plus tard aussi, fin de la semaine, mais peu importe. Toujours intéressant. On va bien voir. Zverev, il joue-tu? Zverev, il va-tu jouer au tennis? Il fait tout, il a-tu le droit? Il fait quoi?
Il est suspendu, Zverev, aux dernières nouvelles. Ouais. Laisse-moi aller voir.
Il était suspendu, probation et tout, mais je sais pas exactement tout ce que ça impliquait.
Il était suspendu pour quelques semaines. Je suis juste pas 100% sûr là, de combien de temps ou à quand ça remontait. Je sais pas si Hugues, tu as le détail sous les yeux. Là. Si tu veux regarder ça pour avoir la réponse en attendant, moi, il y a une joueuse que j'ai remarquée dans le tableau féminin. Je regardais le tableau féminin et il n'y a pas beaucoup de matchs de premier tour qui est blockbuster, comme on dit. Par contre, il y a une certaine Linda Fruvirtova qui est dans le tableau principal.
Elle a un wildcard dans le tableau.
Que tu connais bien. Elle est dans le tableau principal. Elle va affronter Danka Kovinic au premier tour. Alors, moi, je vais la regarder, cette fille-là, parce que, tu es venu nous en parler justement il y a quelques semaines. Ouais. C'est les Fruvirtova, c'est deux sœurs qu'on va suivre dans les prochaines années. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va arriver, parce qu'on s'énerve souvent avec les jeunes talents. Tu sais, Coco Gauff, on en a fait parler beaucoup. Quand est-ce qu'on va avoir accès aux prochaines grandes stars qui va effectivement remplacer Serena Williams pour dominer le tennis? Peut-être que les Fruvirtova sont là, elle est dans le tableau. Peut-être nous rappeler un peu, toi tu l'as vu jouer, peut-être nous rappeler un peu quel genre de joueuse elle est.
Elle a joué deux fois deux semaines contre Rebecca, fiche de une victoire, une défaite, puis on joue en deux ensemble, donc on fait de la demi-finale. Une fille qui peut vraiment être bonne, qui a une facilité à frapper la balle, une qualité de balle qui est à 16 ans, qui est digne des meilleurs. Après, mentalement, est-ce que sur un gros stage de même, elle va être capable de passer par-dessus? On verra quand même assez jeune. Mais c'est sûr qu'avec la qualité et avec le ball striking, comme on dit qu'elle a, elle peut battre n'importe qui. Elle peut battre n'importe qui. Ça va être vraiment intéressant de l'avoir navigué à Miami. Bien hâte aussi de voir ses résultats. Je l'ai côtoyé pendant un petit bout. Mais en parlant de ça, il y a quand même Vachek aussi et Rebecca qui jouent aujourd'hui dans les qualifications.
Oui, exact. Et est-ce que tu as parlé un peu à Rebecca? Elle se sent comment à l'aube de ce tournoi-là?
J'ai parlé la semaine d'ailleurs, je n'ai pas parlé là, dans les deux derniers jours. La semaine passée, au lieu de jouer Indian Wells, elle a décidé d'aller jouer un 60 000 au Mexique. Elle a fait de la finale, donc ben, beau résultat. Elle a avancé, elle a continué d'avancer dans le classement. Là. Je pense qu'elle est montée dans le 106 ou 107. Elle est favorite justement dans les qualifs à Miami. Donc, t'es contente, elle vient de s'entraîner là, une semaine. Elle a passé la semaine à s'entraîner à Miami. Donc, je pense qu'elle est prête. Elle avait hâte, même avant d'aller, quand elle a gagné son tournoi en Californie, on parlait bien qu'elle avait bien hâte de jouer là, à Miami. C'était vraiment l'objectif, c'était d'aller à skipper Indian Wells, jouer un autre tournoi de préparation pour être prête pour Miami. Donc, je pense que j'ai vu vaguement son tableau. Là. Elle joue une fille un petit peu moins bien classée au premier tour. Puis après ça, elle va avoir une fille qui est quand même assez solide pour se qualifier si elle gagne, bien évidemment, aujourd'hui. Mais je pense qu'elle est prête.
Bon, mais c'est intéressant d'avoir un gars de l'intérieur, comme on dit. Hugues, tu as la réponse sur Zverev avant que je conclue l'émission?
Zverev est bien sur le entry list. Il va être là. Donc, ça sera peut-être un tournoi de la rédemption pour lui, mais il se doit de livrer une performance là, en ce moment, Zverev. Et avant qu'on close, Alex, je sais qu'on y arrive bientôt. Je voulais juste souligner que le Canada a obtenu une wild card pour les finales de la Coupe Davis. Point très important parce que la Russie ne pourra pas jouer, a été retirée du tableau. Évidemment, les champions en titre, en fait, il faut le dire. Donc, une deuxième chance pour le Canada d'aller peut-être chercher ce prestigieux trophée. Et pourquoi pas cette année.
Ben, tu fais bien de souligner. C'est intéressant que le Canada puisse rentrer par la porte d'en arrière dans ce genre de compétition-là. Et on en parlait avant l'émission. Isa disait ce qui est intéressant, c'est qu'il rentre par en arrière puis il pourrait très bien finir avec le trophée dans les mains au bout de l'année, dépendant de qui il va. C'est très vrai. Ça va être à suivre. Isa, merci beaucoup d'avoir remplacé à brûle pour point Nicolas Richard qui est occupé avec les transactions. Hugues Léger, merci de t'être levé très tôt ce matin pour accompagner mon vol d'avion un peu plus tard aujourd'hui. Hugues, justement, puisque Nico n'est pas là, je vais te donner le traditionnel mot de la fin.
Bon tennis, Izad. Bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde.
Bye-bye.